RFI. Le Monde à midi.
Il assume tout. De la Cour pénale internationale où il est désormais détenu, Rodrigo Duterte défend sa guerre contre la drogue. 7000 personnes avaient été tuées dans ce cadre aux Philippines, très souvent en dehors de tout cadre judiciaire. Les enquêteurs de la CPI parlent même d'un bilan beaucoup, beaucoup plus lourd, entre 12 000 et 30 000 morts. Bonjour Yves Bocquet. Yves Bocquet, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour.
Oui, tout à fait. Je vous entends très bien.
C'est une bonne nouvelle parce que je ne vous entendais pas. Vous êtes professeur émérite de géographie à l'Université de Bourgogne-Europe, membre du laboratoire Théma et auteur du livre « L'Asie du Sud-Est, entre unité et diversité » paru aux éditions universitaires de Dijon. On va peut-être dire un mot pour commencer de ce qu'a représenté cette guerre que Rodrigo Duterte avait entamée lorsqu'il était maire de la ville de Davao.
Voilà, il a construit en partie sa popularité sur le fait qu'il allait résoudre le problème de la drogue, qu'il allait éliminer les trafics en drogue. Il avait commencé comme maire de Davao en se flattant d'avoir rétabli la paix civile dans la ville en éliminant les trafics en drogue. Et quand il a été élu président, ça a été un des facteurs de son succès. Et il a entamé tout de suite des opérations d'attaque contre les trafics en drogue, en particulier dans les quartiers les plus pauvres ou avec des expéditions militaires qui venaient en fait arrêter ou exécuter un certain nombre de petits trafiquants.
Sans qu'il y ait de procès ou de justice, certaines des victimes de cette guerre, donc de ces milliers de personnes qui ont été tuées, l'ont été par des hommes armés dont on a appris parfois que certains étaient en fait des policiers infiltrés. Les familles ont fait savoir cette semaine qu'elles espéraient des poursuites contre d'autres responsables et pas seulement contre l'ancien président. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas des poursuites aux Philippines ?
Tout à fait. La Cour pénale internationale a dans le viseur deux autres personnes qui ont été chefs de la police. Alors, un d'entre eux est actuellement sénateur et candidat aux élections et s'attend en fait à être arrêté. Dès que le mandat d'arrêt international sera arrivé, il est possible que ces deux autres personnes soient arrêtées.
Alors, Rodrigo Duterte, lui aussi, s'attendait à être arrêté. Mais les Philippines, elles ont quitté la CPI en 2019. Pourquoi est-ce qu'il a quand même été interpellé là, à Manille, et transféré à la haie cette semaine ?
D'abord, il a été président en 2016. Donc, pendant 3 ans, il a été président. Et le mandat porte sur les exécutions sommaires qui ont été faites quand il était maire de Davao et dans ses 3 premières années de présidence, avant que les Philippines ne quittent la CPI.
Et pour quelle raison est-ce qu'il a été arrêté maintenant ?
Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'ordre de l'arrêté est arrivé à la présidence des Philippines lundi matin. Alors en fait, c'était d'abord un ordre de la CPI. Et comme les Philippines n'en sont plus membres, ce n'était pas un arrêt exécutoire, mais quelques heures après, c'est Interpol, dont les Philippines sont toujours membres, c'est Interpol qui a émis le mandat d'arrêt. Et donc, comme Duterte était à Hong Kong, on l'a arrêté. Dès son retour aux Philippines, il est à la sortie de l'avion.
Alors, il faut rappeler aussi peut-être que cette arrestation, elle intervient dans un climat politique assez particulier aux Philippines, dans une période de tension, d'affrontement entre deux grandes familles politiques.
Voilà. L'actuel président Ferdinand Marcos, son père a été président dictateur des Philippines pendant une vingtaine d'années, dans les années 60 à 80. Sa sœur est sénatrice, donc on a déjà la famille Marcos, et puis la fameuse Imelda Marcos, la veuve de l'ancien président, a été longtemps députée jusqu'à plus de 90 ans. Et puis de l'autre côté, de la famille Duterte, le fils, il y a un de ses fils qui est actuellement gouverneur, qui est maire de Davao, un autre fils est député de Davao, et surtout la fille de Duterte est l'actuelle vice-présidente. Mais une vice-présidente qui est dans un processus de destitution. Il y a déjà eu un vote du Congrès, du Parlement philippin, la Chambre des représentants qui a voté pour sa destitution. Et ensuite, ça va passer devant le Sénat au mois de juin. Et pour le Sénat, il faut qu'il y ait 2/3 des sénateurs, 16 sur 24, qui votent pour la destitution. Donc on est dans une situation où la fille Duterte est menacée de perdre sa vice-présidence, alors qu'elle est pour le moment dans les premiers sondages favorite pour l'élection présidentielle dans 3 ans.
Et qu'elle s'était alliée aux dernières élections avec donc le fils de l'ancien commandant Marcos. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ces deux familles politiques ne peuvent plus travailler ensemble ? Vous nous l'avez dit, il y a eu un certain nombre de faits qui ont montré à quel point la tension était grande entre les deux. Pour quelles raisons ?
La tension est énorme parce qu'elle a en fait menacé de mort le président. Hein, elle a menacé parce qu'il y a eu elle a été accusée de malversation, de détournement de fonds quand elle était ministre de l'éducation, en même temps que vice-présidente. Souvent, on confie au vice-président une fonction ministérielle. Donc là, elle était ministre de l'Éducation nationale. Donc on l'a accusée de malversation, de détournement de fonds. On a accusé aussi sa principale collaboratrice, sa chef de cabinet, de corruption. Donc il y a un manque de confiance évident, et elle a répondu en menaçant de faire exécuter le président, la femme du président, le président de l'Assemblée nationale, qui se trouve être un cousin de Marcos, et elle a même été jusqu'à dire que qu'elle aimerait bien aller déterrer le corps de l'ancien président Marcos pour le jeter dans la mer. Hein, donc là, visiblement, il n'y a plus vraiment le grand amour entre les deux.
Voilà. Et d'ailleurs, la fille de Rodrigo Duterte se mobilise en ce moment pour
son père.
Oui, je crois
qu'elle est partie aux Pays-Bas. Elle est partie aux Pays-Bas par un vol commercial, en même temps que son père était transféré par un vol vers Rotterdam. Elle a pris le premier avion pour Amsterdam pour, je pense, être avec lui, essayer de le joindre. Je ne sais pas
oui,
trop quelles sont les conditions
et de persécution. Elle a dit qu'il avait été emmené de force à La Haye. Je vous remercie beaucoup, Yves Bocquet, d'avoir été en ligne avec nous, professeur émérite de géographie à l'Université de Bourgogne-Europe et membre du laboratoire Théma. Merci.
Merci, bonne journée, au revoir.